À la fin du premier siècle de notre ère, le cinéma n'existait encore pas puisque ce n'est qu'en 1888 qu'un certain Louis-Aimé Augustin réalisa le premier film au monde. Pourtant, il n'aurait pas fallu longtemps pour expliquer à l'apôtre Jean ce que c'est, car les multiples scènes de la vision qu'il reçoit font penser à la nuit du cinéma fantastique où l'on passe l'un après l'autre des films bourrés d'effets spéciaux. Alors que Jean est exilé sur l'île de Patmos, il écrit « Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. C'est ainsi que commence la révélation qui fut donnée à l'apôtre et au fur et à mesure que progresse la vision, les scènes deviennent de plus en plus grandioses et dramatiques, et ce n'est pas fini, car au chapitre 12, il commence par dire « Alors, un signe grandiose apparut dans le ciel, c'était une femme. » Bien que la septième et dernière trompette ait déjà sonné, ses effets sur terre ne nous sont pas révélés avant le chapitre 16 du livre. En effet, les chapitres 12 et 13 présentent les grands personnages qui jouent un rôle important jusqu'au moment de la sonnerie de la septième trompette qui a lieu dans la dernière année des sept ans de la tribulation. Je les ai déjà mentionnés, mais je les rappelle. Il y a tout d'abord une femme enveloppée du soleil qui représente Israël, puis un dragon énorme couleur de feu qui avait sept têtes et 10 cornes qui symbolisent Satan. Un garçon qui est Jésus, l'archange Michel qui expulse Satan du ciel, la postérité de la femme persécutée par le dragon, la bête montant de la mer qui est l'antéchrist, et enfin la bête qui monte de la terre et qui est le faux prophète. Quant aux chapitres 14 et 15, il considère les événements de la tribulation selon la perspective du royaume des cieux. Les chapitres 12 à 15 sont un développement de ce qui se passe sur terre et dans les cieux jusqu'à la sonnerie de la septième trompette. Ils ne font donc pas progresser le récit proprement dit. La suite chronologique des événements ne reprend qu'au chapitre 15 dans le ciel et au chapitre 16 sur terre. Je commence maintenant à lire le chapitre 12. Alors un signe grandiose apparut dans le ciel, c'était une femme. Elle avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Verset 1. C'est une nouvelle scène de la vision de l'apôtre, mais pour lui c'est comme s'il visionnait un nouveau film. Il voit une femme qui se trouve devant le soleil dans le ciel, mais il l'appelle un signe parce que ce n'est pas une femme au vrai sens du terme, mais un symbole. Ce signe est grandiose, littéralement « grand », un mot qu'il utilise plusieurs fois dans ce chapitre, parce que tout ce qu'il voit est de l'ordre du fantastique. Qui est cette femme? L'Église catholique romaine dit qu'il s'agit de Marie. Le livre de l'Apocalypse mentionne 4 femmes symboliques. La première, qui fut réellement une femme dans l'Ancien Testament, s'appelle Jézabel. Mais au début du livre, quand elle nous est présentée, c'est une fausse prophétesse qui représente la religion païenne. La seconde femme est celle que voit Jean ici. La troisième apparaît plus loin et a l'aspect d'une courtisane. Le texte dit « La femme était vêtue d'habits de pourpre et d'écarlate et parée de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine de choses abominables et d'obscénités dues à sa prostitution. » Elle représente la fausse religion. Enfin, la quatrième femme est appelée la fiancée de l'agneau. Elle représente l'Église authentique enlevée dans les cieux. La description étonnante que fait Jean de la femme qu'il voit dans le ciel rappelle l'un des rêves de Joseph, l'un des fils de Jacob, qui une fois a dit à ses frères « J'ai encore fait un rêve ». J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Il raconta également ce rêve à son père qui l'aurait pris mandat et lui dit « Qu'as-tu rêvé là? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner en terre devant toi ?» Dans ce rêve, comme dans la vision de Jean, le soleil fait clairement référence à Jacob, la lune à Rachel, les 11 étoiles aux 11 frères de Joseph et la couronne de 12 étoiles sur la tête de la femme aux 12 fils de Jacob, qui sont à l'origine des 12 tribus d'Israël, bien qu'en réalité, il y en ait 13. Il est donc relativement évident que la femme de la vision de Jean est Israël, ce qui n'est pas surprenant, puisque cette nation joue un rôle primordial dans les 70 semaines de la prophétie de Daniel, la 70e constituant les 7 années de la tribulation. Le vêtement de soleil qui entoure la femme exprime la dignité des Hébreux parce qu'ils ont été choisis entre tous les autres peuples pour appartenir en propre à l'Éternel. La gloire d'Israël qui éclate à la fin de la tribulation puis dans le millénium apparaît bien dans une prophétie d'Ésaïe qui écrit « Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Des peuples marcheront à ta lumière et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. Désormais ton soleil ne se couchera plus et jamais plus, ta lune ne se retirera. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil auront pris fin pour toi. » La lune sous les pieds de la femme est une autre allusion au rang élevé d'Israël et à sa supériorité sur les autres nations. Ce sera toujours vrai pendant le millénium, cependant le nouvel Israël inclura tous les croyants de tous les peuples, quelles que soient leurs origines ethniques. L'apôtre Paul écrit « Qu'il n'y a plus ni juif ni grec, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Il n'y a là ni circoncis ni incirconcis, mais Christ est tout et en tous. » Je continue le texte. Un signe grandiose apparut dans le ciel, c'était une femme. Elle était enceinte sur le point d'accoucher et ses douleurs lui arrachaient des cris. Verset 2. Les théologiens qui croient que Dieu a rejeté Israël à tout jamais identifient la femme à l'Église. Mais ce n'est guère possible parce que d'une part l'apôtre Paul considère l'Église comme une vierge pure et d'autre part à la fin de l'Apocalypse, celle-ci est présentée comme la fiancée de l'agneau. Jean décrit Israël en train de souffrir les douleurs de l'enfantement parce que les Juifs sont sévèrement persécutés. En fait, dans toute l'histoire de l'humanité, aucune nation n'a souffert aussi longtemps et aussi intensément qu'Israël, tant de la part de Dieu pour la punir que de Satan pour la détruire. Depuis toujours, les Juifs pieux attendent leur Messie pour régner sur le trône de David, car sa venue est prophétisée. Pour Noël, la coutume est de citer la prophétie d'Ésaïe qui dit « Pour nous un enfant est né, un fils nous est donné ». Et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, père à jamais et prince de la paix. Il étendra sa souveraineté. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice dès à présent et pour l'éternité. Si on y regarde d'un peu près, on se rend compte que la naissance de Jésus est bien mentionnée dans l'expression « un enfant est né, un fils nous est donné ». Mais, dit Ésaïe, il est venu au monde pour nous, c'est-à-dire pour Israël. De plus, dans cette prophétie, l'œuvre de salut de Jésus sur la croix n'est pas mentionnée. Il est né, puis Ésaïe fait un immense saut dans l'avenir et le décrit comme Dieu et le roi qui règne et qui établit la paix, le droit et la justice pour l'éternité. On peut faire les mêmes remarques concernant la prophétie de Michée, également citée pour Noël. Il écrit « Et toi, Bethléem, Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. » Là encore, la naissance de Jésus est mentionnée, mais il est présenté comme roi d'Israël et non pas comme sauveur. Ces deux prophéties envisagent bien la naissance du Messie en tant qu'homme, mais elles le décrivent tout de suite comme roi. Or, quand la sonnerie de la septième trompette retentit, C'est ce qui est sur le point d'arriver, car les soupirs et les souffrances des Juifs vont donner naissance au Messie qui vient sur terre pour régner. Je continue le texte. Là-dessus, un autre signe parut dans le ciel, et voici, c'était un dragon énorme, couleur rouge feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Chacune de ces 7 têtes portait un diadème. Verset 3. Le deuxième signe nous présente un nouveau personnage qui est l'ennemi juré de la femme. Le dragon est un animal légendaire qui, dans le livre de l'Apocalypse, symbolise le diable. En effet, un peu plus loin dans ce chapitre, il est dit « Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. » Beaucoup de gens pensent que Satan est grotesque, et on le représente souvent avec des cornes, une queue pointue et des sabots, ce qui est en fait une caricature du dieu Pan. En réalité, un texte de l'Ancien Testament décrit Satan tout autrement. Je lis le passage. « Par ta grande sagesse et ta beauté parfaite, tu étais un modèle de perfection. Tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu. » Tu étais recouvert de pierres précieuses de toutes les espèces, rubis, topazes et diamants, chrysolite et onyx, jaspe, saphir, escarbouche, émeraude. Tes tambourins, tes fifres étaient d'or ouvragé. Ils furent préparés le jour même où tu fus créé. Or, je t'avais placé avec un chérubin ayant rôle de protecteur. C'est pourquoi je t'ai oint sur ma montagne sainte, c'est là que tu étais. Tu allais et venais au milieu de ces pierres, aux feux étincelants. Satan est un ange déchu, un être spirituel malfaisant, mais il ne ressemble pas à un dragon, pas plus qu'Israël est une femme. La couleur rouge-feu du dragon symbolise la destruction qu'il sème. Jésus a dit aux Juifs, « Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. » Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Le dragon que voit Jean est un monstre à 7 têtes et 10 cornes qui règne sur le monde. Depuis que nos premiers parents ont tourné le dos à leur créateur, Dieu a effectivement permis à Satan de régner sur le monde, et ce n'est qu'à partir de la sonnerie de la 7e trompette qu'il perd ce droit. Les 7 têtes, coiffées de diadèmes qui symbolisent le pouvoir, représentent 7 grands empires successifs ennemis d'Israël. Il s'agit de l'Égypte, l'Assyrie, Babylone, la Perse, alliée aux Mèdes, la Grèce, Rome et le futur empire de l'Antichrist. Le royaume sur lequel il régnera aura 10 cornes, car ce sera une confédération de 10 chefs d'État. Les cornes symbolisent à la fois des chefs et les nations qu'ils dirigent, ce qui peut prêter à confusion. Je continue le texte. La queue du dragon balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Verset 4. Avant de faire chuter l'homme dans le jardin d'Éden, Satan avait réussi à convaincre une vaste quantité d'anges de le suivre dans sa tentative de coup d'État contre l'Éternel. Jean les appelle étoiles, un nom qu'on retrouve ailleurs dans les Écritures. Pour s'être alliés avec Satan, ces anges sont devenus des esprits impurs et mauvais et ont perdu leur statut dans le ciel, dans les cieux. Cependant, Satan et ses démons ont toujours accès au ciel et n'en seront bannis qu'après être vaincus par l'archange Michel et ses anges, ce qui est écrit un peu plus loin dans ce chapitre. Je continue. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mise au monde. Verset 4. La femme représente Israël, comme je l'ai dit, car c'est de ce peuple que Jésus est issu. L'apôtre Paul écrit, « C'est des Israélites qu'est issu le Christ dans son humanité. » Puisqu'il est un descendant direct de David, de la tribu de Juda. Ce passage de Jean nous rappelle la tentative du roi Hérode de mettre à mort l'enfant Jésus. Dans l'Évangile, on lit qu'après le départ des rois mages, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir » car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. Joseph se leva donc et partit dans la nuit, emmenant l'enfant et sa mère pour se réfugier en Égypte. Quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons en dessous de 2 ans, conformément aux précisions que lui avaient données les mages sur l'époque où l'étoile était apparue. Satan a essayé de tuer Jésus plusieurs fois, même quand il était adulte. Pareillement, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour s'opposer aux croyants. L'apôtre Pierre écrit « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. » Je continue le texte. « Or la femme enfanta un fils, un garçon, qui est destiné à diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. » Verset 5. La femme, qui est Israël, a enfanté Jésus le Messie, qui est de la descendance de David et d'Abraham. Il est né pour régner avec une poigne de fer. C'est le sens du verbe traduit par « diriger » que Jean utilise. Jésus va gouverner avec une main d'acier et punira sur le champ tout écart. Ce sera une justice expéditive. Cette notion de fermeté est tirée d'un psaume messianique où il est écrit « Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit « Tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu ? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre, et le monde jusqu'en ses confins lointains sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras comme des vases d'argile, tu les briseras. » Satan ne pourra pas empêcher Jésus le Messie d'établir son royaume de 1000 ans. Je continue le texte. Et l'enfant de la femme fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Verset 5. Une fois son ministère accompli, le Seigneur est sorti du tombeau parce que, comme le dit l'apôtre Pierre, Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité car il était impossible que la mort le retienne captif. Puis Jésus est monté dans les cieux où il siège à la droite du Dieu suprême. Je continue le texte. La femme s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé un refuge pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Verset 6. Pendant la tribulation, Satan va tout faire pour détruire Israël, exactement comme Jésus l'a prédit quand il a dit à ses disciples « Quand donc vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne alors, que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, si quelqu'un est sur son toit en terrasse, qui ne rentre pas dans sa maison pour emporter les biens qui s'y trouvent, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau. Malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ni un jour de sabbat, car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde, et jamais plus on ne verra pareille souffrance. La profanation du temple par l'Antichrist sera le signe pour les Juifs de s'enfuir, de quitter Jérusalem et même Israël. Le lieu où Dieu cachera son peuple n'est pas révélé, mais une prophétie de Daniel semble indiquer où ce sera. Je lis ce passage. Le roi du Midi se heurtera contre l'Antichrist. Comme un ouragan, le roi du Nord, l'Antichrist, fondra sur celui du Midi avec ses chars, sa cavalerie et une flotte considérable. Il pénétrera à l'intérieur des terres et, comme une inondation, il les submergera sur son passage. Il envahira aussi le pays magnifique et de nombreux peuples succomberont. Quelques-uns échapperont à ses coups, les Édomites, les Moabites et l'élite des Ammonites. Or, l'ancien pays des 3 peuples mentionnés se situe au sud de la mer Morte et à l'est du Jourdain. C'est donc quelque part en Jordanie. Peut-être dans la ville antique de Pétra, ancienne capitale des Édomites, que Dieu protégera son peuple et pourvoira à ses besoins comme il l'a fait pour ses ancêtres pendant les 40 années qu'ils ont erré dans le désert. Les 3 ans et demi pendant lesquels Israël restera caché correspondent à la seconde moitié de la tribulation. Depuis les temps immémoriaux où Satan s'est rebellé contre son Créateur, il est engagé dans une lutte permanente contre Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean nous donne un certain nombre d'informations sur cette guerre cosmique et nous présente ses principaux acteurs. Ce conflit atteindra son paroxysme à la fin de la tribulation, au moment de la grande campagne d'Armageddon.